Chapitre 21. La réponse des personnes sûres ne se fit pas attendre. Elle arriva dès le lendemain. Au point de vue du monde, excellent jeune homme, vie honnête et régulière, bon fils, grand travailleur, bel avenir. « Vous voyez, dit le docteur Azéma, quand le doyen lui communiqua cette dépêche. « Oui, sans doute, mais vous voyez aussi au point de vue du monde. » Quand il sera votre paroissien, vous en ferez un excellent jeune homme au point de vue chrétien. Si nous avions le temps de choisir, je comprendrais vos scrupules. Mais ce temps, nous ne l'avons pas. Hâtons-nous de faire le contrat de mariage, je ne réponds de rien. » Le curé se rendit à ses raisons. Il connaissait M. de Mussidan et ses fils, et il avait à leur égard les mêmes craintes que Mademoiselle de Puylaurens. « Descendons au château, dit le médecin, qui ne voulut pas le laisser à ses hésitations. Mademoiselle de Puylaurens est déjà ébranlée, vous enlèverez ses dernières défenses. C'est bien grave un mariage, quelle responsabilité nous prenons, mon bon ami. Et celle que nous prendrions en laissant cette fortune tomber aux mains de M. de Mussidan, ne serait-elle pas grave aussi? Sans doute. Voulez-vous que cette chère enfant soit réduite à la misère? Pourquoi n'a-t-elle pas voulu du comte de Javerlac? » Le médecin avait dit vrai. Mademoiselle de Puylaurens était déjà ébranlée. La peur de la mort, dont elle sentait la main glacée sur ses épaules, sa tendresse pour Geneviève, son horreur pour M. de Mussidan, les hallucinations de la fièvre, les paroles de son médecin, la faiblesse de la maladie, les torts qu'elle se reprochait d'avoir eus envers cet enfant, tout se réunissait et se heurtait en elle pour la troubler. Les choses en seraient-elles là si elle avait élevé Geneviève et si, au lieu de se fâcher des sottes lettres de M. de Mussidan, elle avait persisté dans ses intentions premières? Quand le doyen vint la voir avec le médecin et qu'après le départ de celui-ci, il resta seul avec elle, elle lui fit part de ses inquiétudes et de ses remords. « Certainement, certainement, dit le curé, tout cela est terrible. Cependant, si le jeune homme offrait des garanties... « Vous aussi, monsieur le doyen. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup pensé à vous, à vos tourments, à vos espérances et aussi à la chère enfant, et j'ai envoyé une dépêche à Paris pour qu'on fît une enquête sur ce jeune homme. Oh, une enquête discrète, sans que vous paraissiez en rien, et voici la réponse que je viens de recevoir. » Il lut la dépêche en glissant vivement sur la restriction des premiers mots et en insistant au contraire sur les derniers. « Vie honnête, bon fils, grand travailleur. » Bien que Mademoiselle de Puylaurens fût absorbée par la fièvre et surtout par la difficulté de respirer qui la rendait anxieuse, elle avait toute sa raison et elle ne laissa point passer les premiers mots sans les remarquer. « Au point de vue du monde, » dit-elle. « Sans doute, mais c'est déjà beaucoup. Vous me conseillez donc ce mariage ?» « Je vous conseille... je vous conseille... Le curé eut un moment d'hésitation qui le fit rougir et presque aussitôt pâlir, tant son émotion était forte. Il n'aimait pas à donner des conseils parce que, vous comprenez... Et il ne pouvait pas se décider à les donner sous une forme aussi affirmative, par oui ou par non. « S'il est une affaire grave, dit-il, c'est le mariage d'une jeune fille. » Son bonheur dans le présent, son salut dans l'avenir, le repos de sa famille, tout cela est à considérer, à peser. Avant de donner un conseil, il faut donc s'entourer de garanties. Cependant, pour ce qui est de ce jeune homme, et dans les circonstances présentes, il semble que, en présence de cette dépêche, et d'autre part, en considérant vos justes préoccupations, il semble que... Oui, je n'hésite pas à le dire, le mieux serait peut-être d'accepter ce mariage. » Puis, effrayé de sa hardiesse, il ajouta « C'est surtout à votre santé que je pense. Je suis sûr que si vous aviez la tranquillité de l'esprit, cela contribuerait pour beaucoup à votre rétablissement. Enfin, réfléchissez, bien souvent la maladie donne une grande lucidité à la pensée. » Et, satisfait d'avoir accompli son devoir sans s'être avancé au point de se compromettre, il se retira, laissant Mademoiselle de Puylaurens de plus en plus tourmentée. et le terrible, c'est qu'elle n'avait pas le temps de réfléchir comme le doyen le lui conseillait. La lucidité que la maladie lui donnait ne lui montrait qu'une chose, et toujours la même. M. de Mussidan d'un côté, Sébastien et Frédéric de l'autre, assaillant Geneviève pour la dépouiller. Et cette vision, elle ne pouvait pas l'écarter. Qu'elle fût éveillée, qu'elle s'endormît, elle revoyait le père et les fils mendiant l'argent de cette petite, comme il lui avait si souvent mendié le sien à elle, en pleurant, en menaçant, en jouant toutes les comédies auxquelles elle s'était laissée prendre. Qu'elle mourût, et la pauvre enfant restait exposée à leurs assauts, sans défense, car jamais son père, tant que durerait pour lui l'autorité paternelle, ne lui donnerait son consentement pour qu'elle se mariât. Il faudrait donc qu'elle vécût harcelée, isolée, pour finir ruinée. Non, cela n'était pas possible, ni digne, ni honnête, ni chrétien. Pendant qu'elle raisonnait ainsi, à moitié assise sur son lit, la tête élevée, Geneviève se tenait dans la chambre, auprès d'une fenêtre, immobile, silencieuse sur sa chaise, attentive et toute prête à arriver au moindre signe. « Mon enfant !» dit-elle. Geneviève se leva vivement et accourut auprès du lit. « Vous avez besoin de quelque chose, ma tante ? Assieds-toi là et écoute-moi. » Quand elle se fut assise sur une chaise basse faisant face à la fenêtre, Mademoiselle de Puylaurens la regarda assez longtemps sans parler. Puis, d'une voix attendrie, « Tu l'aimes donc bien ?» Par le docteur Azéma, Geneviève connaissait les hésitations de sa tante, et quand elle restait recueillie dans son coin, ce qu'elle se demandait, c'était à quoi elles aboutiraient. Ce mot la souleva de joie. Prenant la main de sa tante, elle l'embrassa. « Oh, si je l'aime !» s'écria-t-elle. « Eh bien, télégraphie-lui de venir. »« Vous consentez ?»« Je ne peux pas faire ton malheur. Il me semble que dans cette maladie, il y a comme un avertissement du ciel. » Mais Geneviève n'écoutait plus. « Je vais envoyer Buva, dit-elle, ce sera plus sûr. »« Avant, il faut faire la dépêche. Écris-la, je vais te la dicter. » En un tour de main, Geneviève fut prête. Mais il fallut un certain temps avant que Mademoiselle de Puylaurens, prise d'un accès de toux, pût parler. Enfin, la suffocation passée, elle dicta « Ma tante consent, venez vite, mais avant, voyez mon père et qu'il vous donne son consentement par devant notaire. » « Mais il doit l'avoir, ce consentement, dit Geneviève. Il est retourné à Paris pour le demander. » « Ta mère ne t'a pas écrit que ton père l'avait donné ?»« Non, pas encore. » Puis, changeant de sujet, Geneviève dit « Ne puis-je pas ajouter un mot sur votre santé ?»« Garde-t'en bien. As-tu écrit à ta mère que j'étais malade ?»« Non, pas encore. C'est aujourd'hui mon jour. » « Eh bien, ne lui en dis rien, cela est très important. » Au coup de sonnette de Geneviève, ce fut Adélaïde qui entra. « Envoyez-moi Buva, » dit Mademoiselle de Puylaurens. Le vieux valet de chambre arriva presque aussitôt. « Portez cette dépêche au télégraphe, » dit Mademoiselle de Puylaurens. « Hâtez-vous, ne parlez à personne de son contenu. » Il était 3 heures quand Buva déposa cette dépêche au bureau de corde. À 4 heures, elle parvenait à Faré au moment où il allait descendre à Paris. Il courut place d'Encourt où, comme il espérait, il trouva Madame de Mussidan seule, travaillant, tandis que le comte se promenait noblement sous les arbres au feuillage jaunissant des Champs-Élysées. « Voici une dépêche que je reçois de Geneviève, » dit-il. Et il la lui lut. « Hélas !» dit Madame de Mussidan avec désespoir. « Vous ne croyez pas qu'elle décide, Monsieur de Mussidan ?»« Il y a une chose que cette dépêche ne dit pas, c'est que Mademoiselle de Puylaurens, atteinte d'une fluxion de poitrine, est en danger de mort. »« Vous avez reçu une lettre de Geneviève ?»« Geneviève ne parle pas de cette maladie, mais Monsieur de Mussidan a reçu ce matin une lettre de Sédou, son homme de confiance à Corde, lui annonçant cette nouvelle qui est pour lui d'un intérêt capital. » Vous savez qu'il a toute sa vie visé la fortune de Mademoiselle de Puylaurens. Ce n'est pas au moment où il va l'avoir entre les mains, ne serait-ce que comme administrateur, qu'il va la lâcher. Il faut comprendre cela.
Je ne le comprends que trop.
Cette mort de mademoiselle de Puylaurens serait un grand malheur pour vous, mes pauvres enfants. Ce serait une fatalité, car j'espérais avoir un moyen pour amener M. de Mussidan à consentir à votre mariage. Tandis que maintenant, je ne peux rien. Que faire contre un rêve caressé pendant 20 ans, au moment même où il semble prêt à se réaliser ? Faré avait trop réfléchi à cette situation pour ne pas sentir combien Mme de Mussidan avait raison, et il commençait aussi à trop bien connaître M. de Mussidan pour se flatter que des considérations de sentiment ou de famille auraient de l'influence sur lui. Et cependant, il devait se conformer à la dépêche de Geneviève.
« Je dois risquer une nouvelle demande, » dit-il.
« Assurément, M. de Mussidan rentrera vers 6 heures. Attendez-le. »